quoi?
Controverse c'est sur la composition de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en cible. Les ONG de défense des droits de l'homme qualifient d'arbitraire la désignation des 9 membres de cette commission qui, selon elles, sont plus des politiciens que des défenseurs des droits de l'homme. En revanche, la Renadoc se dit satisfait de la mise en place de cette institution. Quel lecture faire de ces deux points de vue? Nous en parlons avec Jonas Tchombela, il est coordonnateur national de la nouvelle société civile du Congo. Bonsoir Jonas Tchombela.
Bonsoir.
Franck Sitende, il est chargé de programme au secrétariat exécutif national du Renadoc. Lui, il est au téléphone. Bonsoir Franck Sitende.
Bonsoir.
Et Joseph Kongolo, il est analyste politique. Bonsoir Joseph Kongolo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le chef de l'État a investi samedi 4 avril dernier les 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Parmi eux, on compte 6 hommes et 3 femmes. Cependant, la composition de cette commission, entérinée mercredi 1er avril par l'Assemblée nationale, continue de diviser les différentes composantes de la société civile de la RDC. Les précisions avec vous, Berry Franklin Luchaka.
La Commission nationale des droits de l'homme est chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ses membres ont été désignés par des organisations de la société civile sous l'arbitrage du bureau de l'Assemblée nationale, a déclaré le président de la Chambre basse du Parlement lors de leur entérinement. Les 9 membres de la CNDH sont Fernandez Mourola, Chantal Nembouzou, Guilin Mboussa, Kenge Chilombay, Amoury Lumumba, Mwamba Mushikonde, Astrid Bilonda, Belinda Lutandila et Olivier Walla Walla. Mais les défenseurs des droits de l'homme sont divisés quant à ces nominations. Le réseau national des ONG des droits de l'homme de la RDC, Renadoc en sigle, se dit satisfait de la mise en place de cette institution d'appui à la démocratie. Cette structure fait observer que les 9 membres qui composent la CNDH ne sont pas tous de la composante droits de l'homme. C'est une commission qui comprend aussi bien les représentants des enseignants, des personnes vivant avec handicap, des organisations féminines. Donc, c'est tout à fait normal si les amis disent qu'en dehors de Fernandez Mourola, les autres ne sont pas connus, affirme le Renadoc. D'autres ONG de défense des droits de l'homme, dont la Ligue des électeurs, l'Étoge Noire, l'Azado, ainsi que le comité d'accompagnement de la CNDH, dénoncent pour leur part le vice de procédure, la politisation et la non-représentativité de cette structure composée, selon ces organisations, plus des politiciens que des défenseurs des droits de l'homme. Notez par ailleurs que la loi instituant la Commission des droits de l'homme avait été votée en décembre 2012 au Parlement.
Merci Berry Franklin Luchaka, Jonas Tchombela. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la nouvelle société civile du Congo. Les noms des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, ont été communiqués et entérinés le 1er avril par l'Assemblée nationale et le chef de l'État a investi samedi 4 avril dernier les 9 membres de cette commission. Votre analyse?
Merci Guy pour la question et tous mes respects à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Comme vous le savez, je suis de même avis que les autres collègues qui de tout à l'heure, que la désignation ou l'enterrement de ce membre, de ce 9 membres, comme vous le savez, comme les autres commissions qui ont d'appui à la démocratie qui ont fonctionné jusqu'ici, je pense ici au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la CENI, au Conseil économique et sociale, toutes ces commissions ont été désignées dans les mêmes conditions, partisanes, politique et injuste. Ça ne peut pas rencontrer le problème que nous voulons résoudre. Lorsqu'on veut embarricader dans des commissions purement techniques qui demandent la compétence et embarricader des hommes politiques pour faire le travail de la société civile. Ça aurait été plus intéressant qu'il nomme carrément l'arbitrage même du bureau de l'Assemblée nationale. C'est un arbitrage injuste qui ne tient même pas compte de la représentation. Vous savez que les Nord-Kivu ne se retrouvent pas dans ce qui
se passe là. Le Kassai occidental ne se retrouve pas dans tout ce qui se passe là. Donc, il y a autant de questions qui sont soulevées par ces désignations que des problèmes à résoudre, parce qu'il y a des problèmes à résoudre. Donc, nous sommes de cet avis que nous ne pouvons pas. Du coup, la manière dont les choses sont faites, plus il y a plus de politique dedans, il est très difficile qu'on obtienne l'indépendance de cette commission. Ça sera une commission partisane.
Voilà, vous vous insurgez contre la désignation de ces personnes, vous qualifiez cette désignation d'arbitraire. Vous devez dire que ces personnes vous ont été imposées.
Vous savez, tous les jets, tout le monde connaît. Nous sommes Congolais, nous ne sommes pas en dehors du Congo. Regardons les choses. Vous savez que cette loi qui met en place cette commission, c'est depuis le mois de mars 2013 jusqu'à ce jour. Vous savez les tergiversations qui ont tourné autour de cela. Vous savez aussi comment la rapidité, la célérité qui a fonctionné à l'époque pour qu'on arrive à mettre sur pied la commission nationale des élections. C'était très vite fait. Quand il était question de mettre sur pied la CNDH, ça, il n'y avait pas la volonté politique. Et parce qu'il y avait des cartons, il y avait déjà des noms préparés, et la même politique a fonctionné pour embarricader, même dans la composante des droits de l'homme, pour jouer. Tout le monde sait combien de réunions se sont passées à travers ce pays. Donc, la désignation là, nous le savons que c'est arbitraire, ça ne respecte même pas la loi. Combien de membres de l'Assemblée nationale ont dû voter pour ces nefs-là? Combien ont été contre? Combien ont participé, les membres de l'Assemblée nationale, ont participé à cet entérinement-là? Donc, il y a un problème d'abord de procédure. La délibération elle-même, elle a été faite de façon arbitraire, qui ne veut pas résoudre le problème, parce qu'on savait déjà qu'il y avait des noms préétablis et qu'on devait continuer à tourner les acteurs qui étaient engagés. Moi qui vous parle, je n'étais pas engagé. Je ne suis ni demandeur, ni preneur dans cette question. Mais je milite au nom du principe.
Vous constatez qu'il y a vice.
Voilà, il y a ce problème-là. Donc, la procédure n'a pas été respectée. Et l'Assemblée nationale, comme dans ses habitudes, il nous met toujours des hommes politiques parce qu'il y a des intérêts et du calcul politique.
Voilà, vous insistez sur le fait, les caractères politiques de ces hommes. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont
mais
des politiciens?
Mais allez à l'article 18
ont-ils
de la loi.
Ont-ils des partis politiques? Sont-ils membres des groupements politiques? Vous les voyez participer à des réunions des partis politiques?
Allez à l'article 18. Les qualités de membres est incompatible avec les fonctions qu'on donne. Au point 8, on parle de membres de cabinet des institutions politiques. Parmi eux, tout le monde le sait, qu'il y a deux personnes qui ont été dans des cabinets politiques dans ce pays. Et ils le savent. Ils le savent. Parmi eux,
ils ont été dans les cabinets politiques sans être membres des partis politiques.
Mais c'est ça qu'ils doivent le démontrer.
Parce qu'on peut être dans des cabinets politiques sans pour autant être politique, on peut être expert.
C'est ça qu'on doit nous démontrer. Il faut qu'on arrive à démontrer cela. Deux, il y a des mandataires, des gens qui gèrent actuellement le stade de martyrs. Les voilà dans cette commission. Voyez ça. Donc, ils quittent du mandat public où ils l'avaient. C'est déjà incompatible. Les voilà dans la commission. Toutes ces questions mis ensemble, nous pousse à dire qu'il y avait un calcul déjà bien organisé et qu'il fallait manipuler l'opinion pour qu'on sache qu'on a mis une commission. C'est un message qu'on veut passer, non seulement à nous, c'est un message destiné à la communauté internationale pour faire croire que nous avons une commission, mais qui, lorsqu'on l'observe de très près, ne sera jamais indépendante. Elle va fonctionner de la même manière que le Conseil supérieur audiovisuel, qui est incapable de rétablir des signaux, des chaînes de télévision de la place, parce qu'elle est mise dans une machine qu'elle ne peut pas opérer de façon indépendante.
Voilà,
c'est le même cas.
Ceux qui s'insurgent ne le font pas parce qu'ils n'ont pas été désignés. C'est vrai que vous dites que vous n'étiez pas demandeur, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui s'insurgent tout simplement parce qu'ils ont postulé, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas été retenus?
C'est un point de vue. Moi, je reconnais bien que Fernandez est un militant des droits de l'homme. Ça, je le reconnais. Mais ceux qui sont derrière lui, moi, je ne le reconnais pas dans ce monde-là, des droits de l'homme, même si on dit qu'ils viennent d'autres composantes. Mais regardez les conditions. Rentrez aux conditions. Vous verrez les conditions, comment je peux les lire rapidement. Être de nationalité congolaise, être âgé de 30 ans, être titulaire d'un diplôme, et j'en arrive et je termine même par là, ne pas appartenir à un organe ou dirigeant politique. Voyez, voilà. Ne pas appartenir à un organe dirigeant d'une quelconque formation politique. Faire preuve d'intérêt et de matière dans le domaine des droits de l'homme. On dit bien clairement. Faire preuve de compétences et de probité morale et intellectuelle. Vous comprenez déjà les conditions qui sont imposées et les types, lorsqu'on observe ces gens-là. Je continue même à vous dire.
Apparemment, vous les connaissez bien.
Oui, oui. Je continue à vous dire, lorsque vous observez, on va entériner d'abord et puis on va présenter leur CV après. C'est très grave. Merci. Donc, on va présenter à l'Assemblée, ils entérinent, et après, on va le présenter une deuxième fois
merci
et monter leur CV. C'était un problème de gouvernance et de l'intérêt que nous avons dans cette commission.
Merci, Franck Sitende. Vous êtes chargé de programme au secrétariat exécutif national du RENADOC. La CNDH est là. Comment vous analysez cela?
Oui, la CNDH est là, c'est une très bonne chose. Nous avons milité pendant plusieurs années pour l'institution de cette commission en République démocratique du Congo. Mes amis doivent se rappeler tous les combats que nous avons menés pour que nous puissions avoir dans ce pays une institution nationale des droits de l'homme. Alors, mes amis qui contestent, je les invite à un peu d'objectivité. Lorsqu'on dit que la commission n'est pas composée des défenseurs de droits humains, je dis oui, d'accord. Parce que la loi qui a institué cette commission fixe les conditions pour faire partie de cette institution-là. Donc, il y a 9 membres. Et la loi dit que parmi les 9 membres, un membre doit venir des organisations non gouvernementales des droits de l'homme, un membre doit venir des ordres professionnels, un membre doit venir des représentants, doit venir des syndicats, pardon, un membre doit venir des universitaires, 2 représentants des confessions religieuses, un représentant des personnes vivant avec handicap, un représentant des organisations non gouvernementales des droits spécifiques de la femme, un représentant des personnes vivant avec le VIH-SIDA. C'est ce que dit la loi. Donc, pour les organisations des droits de l'homme, nous n'avions droit qu'à un représentant. Et le représentant des organisations des droits de l'homme à ce jour, c'est Fernandez Morola, qui n'est autre que le secrétaire exécutif national du RENADOC, le RENADOC qui est le réseau national des ONG de droits de l'homme de la République démocratique du Congo. Le plus grand réseau représentatif des organisations de droits de l'homme qui est représenté dans toutes les provinces du pays et qui compte à ces jours plus de 750 ONG des droits de l'homme. Donc, le reproche qu'on fait à la composition de la commission, pour moi, ne relève pas de l'objectivité. Donc, quand les amis disent, c'est composé des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui n'ont rien à voir avec les droits de l'homme, mais c'est tout à fait normal. La loi qui a institué la commission avait prévu la qualité de ceux qui devraient en faire partie. Donc, pour les ONG des droits de l'homme, nous n'avions droit qu'à un représentant. Les autres représentants viennent des structures que je viens d'indiquer.
Oui, monsieur Franck Sitende, vous estimez que la désignation de ces membres est conforme, n'est-ce pas, au texte. Alors, comment vous expliquez le fait que les ONG s'insurgent contre cette désignation, ils la qualifient d'arbitraire?
Bon, il faut dire que, il faut d'abord noter que dans ce pays, l'unanimité n'est pas congolaise. Voilà, ça, il faut le noter. Et puis, des deux, il y a eu une compétition. Il y avait plusieurs candidatures pour la composante droits de l'homme. Et après l'arbitrage du bureau de l'Assemblée nationale, on est resté à 3 candidats, au lieu des 2, parce que la loi prévoit que chaque composante puisse présenter 2 candidats. Et il appartenait au bureau de l'Assemblée nationale de choisir entre les 2 candidats. Mais pour la composante droits de l'homme, il n'a pas été possible d'arriver à 2 candidats parce que personne n'a voulu se désister en faveur de l'autre. Et d'ailleurs, rappelez-vous que le processus a été très long. Tout simplement parce que, au niveau de la composante droits de l'homme, nous n'étions pas capables de nous mettre d'accord autour des candidats ou d'un seul candidat. Et donc, le bureau de l'Assemblée nationale était bien obligé d'arbitrer.
Monsieur Franck Sitende, vous, en fait, ceux qui ont été désignés selon les ONG des droits humains sont des politiques et non des défenseurs des droits de l'homme.
Bon, je viens de le dire. Sur le 9 membres, il n'y a qu'un seul représentant des organisations des droits de l'homme, en la personne de Fernandez Morola. Les autres viennent des syndicats, des universitaires, des personnes vivant avec handicap. Voilà, donc on ne peut pas préjuger de la qualité des gens avant même qu'ils ne se mettent au travail. Donc si aujourd'hui les amis de la composante droits de l'homme remettaient en cause le fait que Fernandez soit là, c'est autre chose. Mais ils reconnaissent au moins que Fernandez est un défenseur des droits humains.
Voilà,
et
il y a
au-dessus de tout, c'est le secrétaire exécutif national du réseau national des ONG des droits de l'homme, RENADOC.
Mais c'est Franck.
Voilà.
Il n'y a pas que les ONG qui s'insurgent, hein, il y a aussi la politique en fait qui s'amène. Il y a les députés Konde Villa Kikanda qui la semaine dernière a déploré le fait que dans cette commission on ne retrouve aucun membre de la société civile du Nord Kivu, alors que cette société civile s'est distinguée dans la lutte contre les violations des droits humains dans l'est de la RDC.
Vous comprenez que la Commission nationale des droits de l'homme est composée de 9 membres. Nous avons 11 provinces. Hein? Déjà, il y a au moins 2 provinces qui ne devraient pas se retrouver là-dedans. Comment, par quel miracle toutes les provinces devraient être représentées dans cette Commission nationale des droits de l'homme alors qu'elle n'est composée que de 9 membres? Je crois que c'est ça la réponse.
Et pourquoi certaines provinces et pas d'autres?
Non, écoutez, la loi a fixé le nombre de personnes qui devraient composer la Commission nationale des droits de l'homme, c'est 9. Et donc, si ce n'était pas le Nord Kivu, ça pouvait être l'Équateur. Et si les gens de l'Équateur allaient réagir de la même façon, si ce n'était pas l'Équateur, c'était Kinshasa ou une autre province. Et ceux qui n'allaient pas se retrouver dans le neuf allaient réagir. Voilà, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des provinces qui ne soient pas représentées parce que le nombre limité par la loi ne pouvait pas permettre que toutes les provinces soient représentées, c'est clair.
Merci Joseph Kongolo, je rappelle que vous êtes analyste politique, les 9 membres de la CNDH sont désormais connus, votre analyse?
Yeah, merci beaucoup. Je voudrais saluer mes co-débatteurs ce soir. Je voudrais d'abord saluer l'existence de cette CNDH. Vous savez que la société civile s'est beaucoup battue pour que cette commission existe. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous saluons d'abord cette existence. Et c'est quand nous voulons pénétrer la réalité, c'est-à-dire que cet enfant qui vient de naître, nous voulons d'abord placer ça dans le contexte pour comprendre, n'est-ce pas, les critiques des uns des autres. Si nous plaçons ça dans le contexte politique actuel, il est bien clair que le frittement et tous ces enchères politiques, n'est-ce pas, on ne peut pas analyser la sortie de cette CNDH en dehors du contexte politique actuel. Donc ça montre bien, et c'est tout à fait normal, que cette CNDH porte les stigmates du contexte politique actuel. Donc la politisation est liée. Donc cette histoire, la politisation de la CNDH, c'est naturel dans ce contexte, que ça soit lié, n'est-ce pas, à l'existence, n'est-ce pas, à la sortie officielle, n'est-ce pas, de cette CNDH. Voyez-vous ? Donc, je ne voudrais pas revenir sur la lecture, n'est-ce pas, du contexte politique actuel. Vous savez combien nous frôlons la crise politique aujourd'hui, avec toutes ces contestations, avec tout ce qui se passe autour de modification de la Constitution, ceci et tout ça, le débat entre électoral, entre la majorité, l'opposition et tout ce qui se passe. Je crois qu'il faut considérer la sortie de cette CNDH dans ce contexte politique pour comprendre aujourd'hui que la politisation dont on parle par les organisations de la société civile est normale.
Et donc,
il faut l'assumer.
Et donc, ces débats où les uns disent la désignation a été faite de façon arbitraire, les autres disent que ça, c'est conforme au texte. Donc, c'est un débat tout à fait compréhensible. C'était prévisible.
Oui,
dans les contextes politiques congolais.
Absolument, c'était assez prévisible. Et ça doit porter les stigmates du contexte politique actuel. C'est pourquoi j'ai dit que dans une démocratie naissante, ce que j'appelle une proto-nation endurcie, comme nous, la République démocratique du Congo, nous ne voulons pas grandir en démocratie, nous avons tendance à politiser, même ce qui est citoyen. Même le citoyen, on a tendance à le politiser. On a tendance à l'assujettir aux intérêts des groupes, aux intérêts des individus. Et la CNDH, aujourd'hui, porte ces stigmates. C'est pas normal que ceux qui militent, n'est-ce pas, dans ces secteurs de droits de l'homme, contestent une organisation, n'est-ce pas, une commission. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a une politisation, effectivement. Et il faut pas s'en dégager. Nous prenons le contexte. Et c'est pas normal. Vous voyez-vous ? Donc, nous disons que cette politisation des institutions citoyennes, nous ne voulons pas grandir démocratiquement. Nous ne voulons pas grandir, nous voulons rester là parce qu'on ne peut pas distinguer l'instance politique et l'instance citoyenne. On voudrait assujettir les intérêts politiques à certaines institutions.
Et là, c'est le fait de qui ? C'est le fait de la société civile ? C'est le fait des politiques ?
C'est le fait des politiques. Il n'y a pas de volonté politique. On ne voudrait pas grandir. J'ai parlé d'une proto-démocratie endurcie. Nous refusons de grandir. Il y a lieu aujourd'hui. Les politiques, ceux qui ont procédé à ce choix, connaissent bien les gens. Ils connaissent leurs compétences dans ces matières. Et quand ils ne les ont pas pris, ils savent pourquoi. Et c'est ce que nous ne voulons pas exactement.
Et donc, vous voulez dire que si le politique s'en était pas mêlé, on ne serait pas en train de faire ces débats aujourd'hui ?
Je l'espère. Je crois bien. Écoutez, les sociétés, les organisations du droit de l'homme avaient une liste bien faite. Il y avait déjà une liste. Mais quand on a vu les personnalités des gens qui se sont distingués dans la défense des droits de l'homme, quand on a vu toutes ces personnalités, quand on ne se retrouve pas dans les mêmes cercles le soir, eh bien, on trouve que ce sont des hommes dangereux.
Mais les bureaux, nous avons parlé avec les bureaux du président de l'Assemblée nationale, Obeminaku, son bureau dit que les noms sur cette liste, tous ces noms étaient proposés par la société civile.
Bah, effectivement, moi je voudrais dire ceci, que la société civile, ça c'est une commission de défense des droits de l'homme. Et quand vous parlez de la société civile, c'est une très grande assiette. Voyez-vous ? Les jeunes peuvent réclamer. Est-ce qu'il y a des associations des jeunes ? Il n'y en a pas. Donc c'est ça la société civile. Elle est trop vaste. Et parce que la commission, c'est une technique, c'est une matière technique spécifique, je crois qu'il fallait recourir à des compétences éprouvées dans la matière pour pouvoir faire le poids et donner une bonne image à la République. Donc aujourd'hui, je vous dis sincèrement qu'on ne voudrait pas grandir. On voudrait tout politiser, on voudrait ne pas séparer les différentes instances qui doivent secouder, s'entrechoquer de manière, n'est-ce pas, à ce que la lumière jaillisse.
Et donc, comme vous le dites, la société civile, c'est une grande marmite, elle est plurielle, et cela veut dire que même si la politique ça n'était pas mêlée, et il n'y aurait toujours pas d'unanimité autour de la désignation de ces membres-là, du fait de cette pluralité, n'est-ce pas, qui caractérise la société civile en RDC.
Non, ça dit que l'unanimité, peut-être pas, mais au moins un consensus se serait dégagé. Et je suis sûr, n'est-ce pas, dans ces milieux, quelques contacts que j'ai eu à faire, il y avait une liste bien faite qui a été faite et qui a rencontré le consensus de la majorité des organisations de société civile, enfin de défense des droits de l'homme. Donc ce que je voudrais dire, c'est que ne sortons pas du contexte et vous allez vite comprendre qu'il y a politisation. Et la politisation, c'est la nature d'un enfant qui ne veut pas grandir, tout simplement.
Alors vous pensez que dans un contexte où nous avons une société civile qualifiée de plurielle, les consensus est possible.
Oui, le consensus, oui, pas l'unanimité. Je veux pas du consensus. C'est possible de se mettre d'accord sur des personnalités capables de diriger une organisation. Cela est possible. Cela est tout à fait possible. Voyez.
Oui. Merci, Jonas Tchombea. Nous allons prendre pour vous une question qui vient de Kananga, en province, au Kasaï occidental.
Maître Adrien Ilobakwei Pero à Kananga, au Kasaï occidental. La polémique autour de l'installation de la Commission des droits de l'homme ne confirme-t-elle pas la politisation de toutes ces structures ? Est-ce parce que vos représentants ne font pas partie de la dite commission, il faut accuser les autres qui y figurent qu'ils sont des faux et ne sont pas du tout des activistes des droits de l'homme.
Oui, Jonas Tumela.
Merci pour le compatriote qui nous appelle depuis Kananga. Il l'a dit dans la première partie de sa question, il a tenté d'affirmer ce que Joseph est tenté de dire déjà ici. Maintenant, c'est dur que c'est un problème parce qu'on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Moi qui vous parle, je vous ai dit dans ce DG que je n'étais pas ni demandeur ni preneur. Mais je milite pour le principe. Et je milite pour la bonne gouvernance dans le système, pour l'indépendance de la Commission des droits de l'homme. C'est tout mon problème est là-bas et tout mon combat est là-bas. Donc, je ne suis pas candidat, je n'étais pas candidat. Donc, le fait que je conteste déjà la composition, je vois la qualité du travail que nous attendons de cette institution. Parce que nous sommes battus pour cette institution, mais pour qu'on ait un bon travail, en ce moment précis, que cette institution est noyautée par la classe politique, sachant ce qu'ils font déjà avec d'autres commissions d'appui à la démocratie, nous sommes en mesure de nous dire que nous sommes mal partis, nous sommes très mal partis. Pour preuve, tous ces candidats qui sont retenus au mois de janvier, le 19, le 20, le 21, il y a eu des événements dans cette ville. Qu'une composante que tous ces gens-là nous démontrent cette déclaration qu'ils ont faite parce qu'il y a eu violation des droits de l'homme dans ce pays. Le 15 mars, dans ce pays, il y a eu des problèmes des droits de l'homme. Que ces organisations-là nous montrent une seule déclaration. Tous se sont permis de se taire parce qu'il y avait un problème d'intérêt égoïste. Au lieu de regarder les droits de l'homme.
Tout le monde cherchait à faire partie de cette commission.
Voilà, vous avez compris pourquoi il s'était tu. Et nous qui comprenons les choses, nous avons continué à parler pour les droits de l'homme. Notre problème, c'est qu'ils le puissent. Parce que pour le moment, j'ai suivi notre collègue Franck dire tout à l'heure, le problème de choix, c'est 9 personnes. La répartition, c'est 9. Mais est-ce qu'il peut-il nous dire, quel est le critère qui a pesé pour que les deux autres provinces ne soient pas choisies? Quel est le critère qui a pesé que c'est le privilégié, c'était le 9? Oui, tout le problème est là-bas. Tout le problème est là-bas. Donc, est-ce qu'il y avait un critère pour qu'on dise que c'est le Kassai ou c'est le Nord Kivu qui devait être exclu? Vous voyez, qu'est-ce qui a milité pour qu'on dise que c'est les autres qui valaient alors que les autres ne valaient pas? Donc, c'est déjà ce problème-là qui se posait. Nous savions bien que cette difficulté existait, mais c'était intentionnellement mis dans la loi.
Monsieur Jean Soumela, est-ce que ce ne sont pas toutes ces divergences de vues au sein de la société civile et qui ont fait que la politique puisse se saisir de la chose?
La politique dans notre pays, vous savez, au finish, la décision elle est toujours de la classe politique. Toutes les lois sont faites par une classe politique d'une certaine tendance avec une certaine vision dans les lois. Ces lois-là n'ont jamais été des lois impersonnel. C'est des lois calquées sur mesure.
Dès le départ, vous saviez que les textes disaient cela, mais en dépit de ça, vous avez accepté, n'est-ce pas, de vous inscrire dans cette logique.
Vous savez, le problème...
Vous saviez que vous allez faire un choix en amont, mais qu'en aval, le dernier mot va revenir aux politiques. Vous le saviez, non?
Ça.
Et vous n'avez pas dénoncé cela.
Quand on parle de l'Assemblée nationale, nous avions pensé que l'Assemblée nationale, comme on nous a dit par son président, serait le temple de la démocratie. Et là, nous sommes en train de vivre autre chose que la démocratie. Vous voyez, nous étions un peu naïfs de croire que nous sommes là, dans le temple de la démocratie, et que là, ils peuvent regarder l'intérêt de la population qui cherche une commission indépendante. Il se pose des problèmes. On parle d'une fosse commune dans cette ville. Mais que ses membres, leurs organisations, nous produisent un seul communiqué, même une seule déclaration, c'est déjà un problème parce qu'ils sont déjà embarricadés par le pouvoir politique. Ils ne sont liés. Ils ne peuvent faire un travail indépendant. Voilà
mais pourquoi. Il n'y a que M. Morola Fernandez qui est membre d'une ONG de défense des droits de l'homme.
Oui, mais vous avez vu tout à l'heure qu'on ne le conteste même pas. Vous avez vu ça. Nous ne le contestons pas. Mais il est là. Il est en train de faire. Il est là. Il est le seul.
Merci.
Qui maîtrise la question et le reste.
Merci, Monsieur Sitende. Nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Bukavu, au sud Kivu.
Je dis Tendilongue, je suis à Bukavu, au sud Kivu. Je pense que le Renadoc ne doit que se féliciter et un membre parmi les élus nominés. Et comme le sait que sa liste combien louable longtemps menée, puisqu'elle est rejetée dans les ouvriers, étant maintenant téléguidée par les pouvoirs.
Oui, Monsieur Sitende.
J'ai pas très bien compris sa question.
Oui, il dit, je pense que le RENADOC ne doit que se féliciter ayant un membre parmi les heureux nominés, mais le comble, c'est que sa lutte, combien louable, longtemps menée, risque d'être jetée dans les oubliettes, tant, étant maintenant téléguidée par les pouvoirs. Voilà.
Non, mais en quoi le RENADOC va être téléguidé par le pouvoir? La CNDH est une institution d'appui à la démocratie. Nous l'avons réclamé, il était tout à fait normal que nous puissions militer pour être dedans, afin d'aider à ce que cette institution puisse accomplir sa mission de manière tout à fait satisfaisante. Donc, je ne vois pas en quoi le RENADOC va être télévisé par le pouvoir. Par contre, le RENADOC s'engage à appuyer la Commission nationale des droits de l'homme pour qu'elle puisse effectivement remplir convenablement sa mission. Donc, le RENADOC va continuer son travail par le passé, la CNDH fera son travail et le RENADOC continuera à faire son travail.
Monsieur Franck, c'est un dé.
Il faut absolument faire le distinguo entre le RENADOC et la Commission nationale des droits de l'homme. Finlandaise étant aujourd'hui membre de la Commission nationale des droits de l'homme, il va cesser d'être secrétaire exécutif national du RENADOC.
Monsieur Franck, c'est un dé. Teddy Long de Bukavu, vous qui venez de poser la question, il dit, il a relevé un autre aspect. Il dit, je pense que le RENADOC ne doit que se féliciter ayant un membre parmi les heureux nominés. Vous pensez que si la candidature de votre membre n'avait pas été retenue, vous serez aujourd'hui en train de tenir le langage que vous tenez?
Absolument. Si les choses s'étaient passées dans les normes, ben, on ferait la même chose. Aujourd'hui, on se félicite parce que nous estimons que le choix qui a été fait en faveur de Fernandez est un choix judicieux. Le RENADOC, comme je le dis, c'est le plus grand réseau des ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo, dont la qualité du travail est reconnue non seulement sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan international. Et donc, je pense qu'en toute objectivité, les ONG des droits de l'homme devraient, par contre, se féliciter que le secrétaire exécutif national du RENADOC soit parmi les 9 membres de cette commission.
Monsieur Franck,
puisque garantit son impartialité, son indépendance et la qualité du travail.
Monsieur Franck, la CNDH sera chargée notamment de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Comment va-t-elle assumer ces tâches si elle n'a pas, l'appui des ONG qui sont censées avoir la bonne information, l'information du terrain?
Oui, la CNDH a ses propres attributions. Et c'est tout à fait normal que, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle puisse s'appuyer sur le travail des ONG. Je voudrais ici rappeler que, parmi les attributions de la CNDH, il y a notamment enquêter sur tous les cas de violation des droits de l'homme, orienter les plaignants et victimes et les aider à rester en justice sur toutes les violations avérées des droits de l'homme, procéder à des visites périodiques des centres pénitentiaires, des détentions sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, enfin, c'est à peu près 20 attributions pour la CNDH. Donc la CNDH va fonctionner indépendamment des ONG des droits de l'homme, mais parmi les attributions, il y a aussi le renforcement des capacités des ONG des droits de l'homme. Donc les ONG vont continuer à faire leur travail, la CNDH va remplir sa mission selon les dispositions de la loi organique qu'il a créée.
Merci.
Mais les deux devraient se compléter.
Merci, Joseph Kongolo. Nous avons une question qui vous est destinée. Elle vient de Dungu, en province orientale.
Crispin Alibo de Dungu, province orientale. La controverse autour de la désignation de ces 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme vaut son pesant d'or parce que cette commission se veut à politique par tâche et relève par conséquent d'une prérogative de la société civile comme un contrepoids du pouvoir politique. Ceux qui jugent d'arbitraire cette désignation n'ont-ils pas une large part de raisons, car s'ils n'auraient pas eu une consultation des structures existantes à mission similaire, Cela ne doit-il pas laisser en penser? Comment peut-on agir de manière à mettre soi-même les doigts dans l'œil en mettant sur pied une telle structure dénonciatrice de la conduite de son propre gouvernement en matière de droits de l'homme sans qu'il ait possibilité de manipulation et des injonctions à cette commission désignée sans consultation?
Oui, Joseph Kongolo.
Bien, la question est trop longue.
Oui.
Et de fois, elle comporte des réponses. Donc, nous voulons dire que la loi a été votée. Je sais que la loi elle-même a été votée dans une cacophonie terrible. La société civile n'était pas d'accord avec la disposition en 2012. Ouais.
Il y a déjà 3 ans.
Oui, il y a déjà 3 ans. Effectivement, là, c'est encore un record. Bon, la loi est là. Maintenant, on réfléchit en termes de loi. Parce qu'on ne peut pas revenir sur ce débat parce que la loi est déjà votée. OK ? Donc, la loi étant déjà votée, nous devons réfléchir en fonction, n'est-ce pas, de la logique et de l'esprit de la loi. Donc, c'est vrai, c'est ce que nous disons ici. Je crois que je l'ai dit dans la première intervention. Si on pouvait laisser les mains libres aux organisations de droits de l'homme d'organiser cette structure et de présenter une liste finale, n'est-ce pas, au niveau du Parlement, ce serait fait sans problème. Mais, comme je l'ai dit, une démocratie qui ne veut pas grandir, on voudrait toujours avoir des longues mains, avoir des relais, des répondants dans des structures citoyennes.
Joseph Kongolo, parce qu'il faut réfléchir en fonction de la loi. L'article 6 de la loi instituant cet organe dit ceci au sujet de ses attributions: contribuer à la préparation des rapports de la RDC et présenter devant les organisations internationales en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l'homme. Mmh. Cette institution ne doit-elle pas se buter contre des impératifs politiques?
Absolument.
Dans les faits.
Absolument. Vous avez combien de procès politiques dans ce pays? Il ne faut pas soiler les yeux. Et je ne sais pas comment cette commission va travailler en toute indépendance pour produire des rapports réels du terrain en fonction de ces choses qui sont boutiquées, n'est-ce pas, dans les milieux politiques. Vous avez des procès au hangar, vous avez le procès politique, vous avez Caméret, vous avez tous ces gens aujourd'hui. Ils croupissent en prison, ils sont tracassés, n'est-ce pas, par la justice. Nous aimerions bien les voir, réagir et faire des rapports. Et nous allons lire ces rapports pour voir effectivement si cette commission aura le poids nécessaire pour pouvoir défendre l'image, n'est-ce pas, de la République en matière de défense des droits de l'homme. Donc, ce que nous voulons dire, c'est que d'abord, les deux ans qui se sont écoulés pour mettre sur pied une structure de droits de l'homme, est-ce que le pouvoir attendait le fin mandat pour mettre cette structure, pour que cette structure ne puisse pas les inquiéter? Nous ne savons pas pourquoi. Et tout ça, ça montre bien. C'est pourquoi j'ai dit, le contexte politique, nous ne pouvons pas analyser un fait politique, éminemment politique, celui-là, sans le détacher, n'est-ce pas, en le détachant de ce contexte politique. Donc nous sommes en train de voir que derrière, n'est-ce pas, les salles de cette commission, il y avait des agendas cachés, et nous allons le constater tout de suite.
Et au-delà de ce débat, quels sont les défis que doit relever cette institution?
Il y a de grands défis. Il y a beaucoup de défis qu'on doit relever. Vous savez qu'en matière de défense aux droits de l'homme, la République est naine. Nous sommes très chétifs. La République démocratique du Congo, dans toutes les matières, nous sommes très chétifs. Et le défi, n'est-ce pas, que la Commission aura à relever, c'est un défi énorme. C'est dans tous les secteurs, voyez-vous. Je crois que j'aimerais bien qu'ils se saisissent très vite du dossier. Il y a un appel en inconstitutionnalité, n'est-ce pas, sur le procès Caméret. Je crois qu'ils existent maintenant. Nous aimerions voir, n'est-ce pas, leur position à ce propos. Donc, je voudrais vous dire que les défis sont grands. C'est pourquoi on avait besoin des gens plus compétents et plus qualifiés pour aborder ces dossiers. Voyez-vous, les autres, ils seront là. Bon, faites comme vous voulez. Bon, ils seront là pour applaudir et pour signer des rapports et tout simplement, c'est terminé. Donc, c'est pourquoi nous avions voulu avoir des hommes très aguerris dans la matière, de manière à défendre la République et défendre les droits de l'homme en plus démocratique du Congo. Ça va faire grandir la démocratie et la consolider davantage.
Jonas Chambrela, les défis que doit relever la CNDH?
ça verser dans le kit de la personnalité dont nous sommes en train d'attendre par-ci par-là, où on dit que tel homme, s'il est dans la commission et toute son indépendance sera préservée, nous le on reconnaît mon arbre par le fruit, nous les attendons fruit, on verra comment. Ils ont d'abord un défi énorme. D'abord, il faut dépolitiser cette institution. Deuxième défi, il faudra qu'ils fassent preuve d'indépendance. Or, l'institution est déjà noyautée. On se demande comment ils pourront faire preuve d'indépendance. D'autres défis sont retrouvés dans les attributions même de l'institution elle-même. Elle a beaucoup de défis à relever parce que notre société est vraiment une société où les droits de l'homme sont vraiment le cadet des soucis de la volonté de la classe politique de notre pays. D'abord, pour mettre sur pied cette commission, ça a été un problème. 3 ans après, nous voilà avec une commission contestée, contestable, dont la qualité du travail et reste encore sujet à caution. Donc, nous pensons pour nous, les défis sont à retrouver dans les attributions qui sont reconnues à l'article 6. C'est à peu près 20. Je crois que Franck l'a les révélé tout à l'heure. C'est à peu près 20. Nous voulons le voir à ce niveau-là. Or, lorsqu'on observe les choses de très près, on était bien du côté là où il y a les intérêts de la classe politique. C'est les élections. Là, c'était vite et bien fait et rapidement. Lorsqu'il fallait mettre une commission, parce que c'est une commission qui va remettre en question le travail de la classe politique. Or, cette commission va émarger du budget de l'État. On se demande comment elle va être indépendante.
Et donc, vous pensez que la présence de cette commission ne va rien apporter, n'est-ce pas, en ce qui concerne la promotion et la défense des droits humains?
S'il nous était demandé de faire le bilan du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et s'il nous était demandé de faire le bilan de la commission de sélection comme du conseil économique qui vient d'être fait, nous pouvons être en mesure de nous dire, nous sommes en mesure de dire que c'est très douté de prédire ce que la bonne qualité du travail de cette commission n'a été par la classe politique.
Franck Sitende, quels sont les défis que doit relever la CNDH? Ça sera aussi votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Je voulais dire à Jonas qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Jonas a dit qu'on s'est battu pour l'institution de la Commission nationale des droits de l'homme. Maintenant que cette commission est là, je pense que ce n'est pas le moment de remettre en cause les dispositions de la loi, puisque nous avons accepté la loi.
Franck, les défis?
Pardon?
Les défis que doit relever ce NDH, vous avez parlé des attributions. Est-ce que vous pensez que dans le contexte congolais, cette institution sera à mesure, n'est-ce pas, d'assumer ses fonctions?
Absolument. Je pense que nous devons rester optimistes et accorder la chance à la Commission nationale des droits de l'homme de bien faire son travail, de remplir sa mission. Ainsi détaillé dans les attributions, il y en a 20. Je pense que si elle s'acquitte convenablement de ses attributions, nous pouvons dire que la Commission a relevé les défis. C'est vrai que le contexte est très difficile. Le premier défi, comme l'a dit Jonas, c'est de préserver son indépendance.
Merci.
Et son impartialité. Voilà.
Merci, Joseph Kongolo. Votre conclusion?
Je voudrais dire que si cette commission qu'on attend d'écrier peut être à mesure, comme Jonas l'a dit, d'abord la dépolitisation et puis l'impartialité, je crois que le grand travail peut se faire aussi au niveau de la globalisation, la défense des droits de l'homme. C'est l'affaire de tout le monde. Arriver à accroître la capacité, n'est-ce pas, des citoyens, des groupes, n'est-ce pas, à défendre ses droits, c'est-à-dire à communiquer sur la défense des droits. Et ça, c'est très important. Deuxièmement, il faut accroître la vigilance des citoyens, de manière à ce que les institutions qui sont là pour assurer la sécurité ne puissent pas se transformer en institution d'asservissement.
Merci, Jonas Soumela, votre conclusion.
Comme nous l'avons dit, notre conclusion, c'est que nous sommes attachés à l'indépendance, à l'impartialité de cette commission, à la dépolitisation de cette commission, et notre combat pour les prochaines minutes qui vont suivre sera consacré sur cette question.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Etienne Sijakala qui était la technique. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Kéline Kouté, Berry Franklin, Luchaka, sous la supervision de Ben Kabamba, à la présentation Guy Maté. Merci et à la prochaine.